Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, j'aurai comme invité l'ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, Jean-Philippe Bauduc. En compagnie de Jean-Philippe, on va faire un tour des actualités qui entourent les Alouettes parce que ça a vraiment été très mouvementé au sein de l'organisation montréalaise lors des derniers jours. On enregistre le podcast mardi en fin d'avant-midi et lundi matin, on a appris que les Alouettes seront pas probablement encore une fois à vendre au cours des prochains mois. Et on va en parler en compagnie de Jean-Philippe, toujours avec Jean-Philippe Bauduc. On va faire un tour des actualités du côté de la NFL. Les matchs préparatoires sont terminés. Il y a quelques performances de joueurs d'équipe qui ont retenu notre attention. Donc, on va en discuter. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir nous parler fantasy football parce que là, c'est la période des repêchages au niveau du fantasy football. On est en attente là, du premier match de la saison régulière de la NFL qui aura lieu jeudi, le 8 septembre à Los Angeles. Lorsque les Rams vont recevoir les Bills de Buffalo, qui sait, peut-être que ce sera une prélude du prochain Super Bowl. Bref, on a beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui au podcast le Sac du Cœur. Oui, alors sans plus tarder, on va accueillir Jean-Philippe Bauduc. Un petit bout qu'on n'avait pas parlé à Jean-Philippe depuis la saison dernière. Il s'est passé, tu as eu une saison morte mouvementée. Vous avez accueilli votre premier enfant notamment.
Ouais, un peu moins de sommeil depuis quelques semaines, mais on s'en sort pas pire pareil.
Ouais, c'est bon. Écoute, félicitations à toi et ton épouse. Vous avez un beau bébé en santé. Alors ça, c'est excellent. On peut pas demander mieux que ça. Écoute, on va jaser football. On va commencer en parlant des Alouettes. Comme je le disais, hier, on a appris que Gary Stern, qui était un propriétaire minoritaire, ça, faut bien le préciser, ce Gary Stern était juste propriétaire de 25, et est juste, je devrais pas parler au passé, est juste propriétaire de 25 % des parts des Alouettes. Mais on le voyait sur les réseaux sociaux, il avait une grande gueule. Lorsque je l'ai interviewé au début de la saison avant un match contre Toronto, il avait dit « on va tuer les Argonauts ». Il parlait beaucoup pour quelqu'un qui est juste propriétaire à 25 % de l'équipe. Alors, c'est son beau-père, Sid Spiegel, lui qui était propriétaire à 75 % de l'équipe. Ils ont acheté l'équipe ensemble. Toutefois, Spiegel est décédé il y a environ un an. Et là, c'est sa succession qui détient les 75 % de l'organisation montréalaise. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de contacts entre la succession et Mario Cecchini, le président des Alouettes. Toutefois, Mario Cecchini nous a dit hier, après la séance d'entraînement, qu'il allait discuter avec la succession au cours des prochains jours. Bref, tout ça pour dire, on dirait que les Alouettes seront encore une fois mis en vente. Qu'est-ce que tu penses de ça, de voir que Gary Stern, là, il est écarté après quoi, moins de 3 ans en tant que propriétaire des Alouettes, ce n'est plus lui là, qui va s'occuper des activités quotidiennes. Mario Cecchini et Danny Machocha n'auront plus à se reporter à lui.
Non, c'est malheureux, mais je pense qu'il n'a pas été chanceux aussi. Il a acheté une franchise qui était vraiment mal en point quand il a acheté la franchise. Après ça, il y a eu la COVID. Après ça, il y a eu une saison écourtée. Après ça, il y a eu une saison où ça semble être un peu mieux, mais tout de même pas aussi en santé que je pense qu'il l'aurait espéré. Du côté de la succession, je pense que c'est normal. Je pense qu'ils ont beaucoup d'autres choses. Quand c'est une personne qui vaut, si je me trompe, 2 milliards ou plusieurs centaines de millions de dollars, c'est Spiegel qui les a aidés. Je pense que la succession ont beaucoup d'entreprises, beaucoup d'actifs d'avoir à gérer. Je peux les comprendre que les Alouettes, c'est probablement un de leurs derniers soucis en ce moment dans toute cette succession-là et cet héritage qui semble être faramineux. Pour ce qui est du propriétaire, Gary Stern, pense-en bien, pense-en mal, mais pense-en. C'est quelqu'un qui trouvait une façon de faire parler de son équipe un peu extraverti, un peu extravagant, mais on en parlait beaucoup. C'était quelqu'un qui était récemment actif sur les réseaux sociaux et c'était quelqu'un de divertissant. C'est sûr que c'est un gros contraste à la famille Greenberg que j'ai connue, moi, à Ottawa, des gens très réservés, très calmes, très en contrôle. Donc, deux types différents, mais ça prend toutes sortes de propriétaires pour faire une ligue dynamique. Puis je pense qu'il a amené certainement un peu plus de dynamisme. Puis il a poussé. Puis je pense que des nouveaux propriétaires, on le regarde juste le Vancouver avec Omar Doman, qui est lui aussi dans le bois d'œuvre, un peu comme moi, mais pas mal plus big, mais. Gager les Beatty Lions qui se portent très, très bien, puis que vraiment un vent de fraîcheur du côté de cette franchise-là. Fait que j'espère que le prochain propriétaire d'Alouette saura faire la même chose ou prendre exemple de ce que Vancouver a fait.
Ben, c'est bien que tu mentionnes le nouveau propriétaire du côté des Lions de la Colombie-Britannique, parce que lui, il vient de la région de Vancouver. Pour moi, je crois que ça serait important que les prochains propriétaires des Alouettes, parce qu'on anticipe que l'équipe sera mise en vente encore une fois, que ce soit des gens d'ici. Puis moi, d'après ce qu'on m'a dit, ben, il y a des investisseurs québécois qui ont déjà démontré un intérêt, à acheter les Alouettes. Pour toi, est-ce que c'est important que les propriétaires soit d'ici, comme on le voit à travers la Ligue, là, généralement, ce sont des propriétaires qui viennent de la région. Les Argonauts appartiennent à MLSE. Tu as parlé de la famille qui est propriétaire du Rouge et Noir à Ottawa. C'est la même chose à travers la Ligue, mis à part Montréal, si je ne me trompe pas. Bon, tu as les Bombers, les Riders, ainsi que les Elks qui, eux, appartiennent à la communauté. Mais là, d'avoir quelqu'un qui venait du sud de l'Ontario, qui était propriétaire des Alouettes, pour moi, ça n'allait jamais vraiment fonctionner. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, je suis probablement d'accord un peu avec ce que tu dis. Puis, tu sais, on parle même des plus grosses franchises de sport. Certaines franchises comme les Canadiens de Montréal appartiennent à un Montréalais. T'achètes pas une franchise de la Ligue canadienne pour la faire tourner aux Cowboys de Dallas. C'est un passe-temps. C'est d'autres raisons pour lesquelles tu achètes une franchise comme ces gens-là achètent un yacht. C'est un hobby, c'est un passe-temps d'avoir une équipe de sport professionnelle qui te rapportera pas nécessairement des centaines de millions de dollars. On a vu les chiffres de certaines franchises dernièrement, Saskatchewan puis Winnipeg, qui ont, après toutes les dépenses, les années difficiles, qui sont quand même capables de tirer un 3-4 millions de profits nets par année, ce qui est sensiblement pas rien après ce qu'on vient de vivre. Mais le marché montréalais est assez spécial. L'Impact a beaucoup de succès dans les estrades cette année. C'est plusieurs matchs à guichet fermé. C'est un propriétaire montréalais qui aime sincèrement son équipe, qui tient à cœur. On voit la même chose pour Jeff Molson. J'ose croire que les Alouettes devraient être dans la même branche, mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a un propriétaire montréalais qui est prêt à éponger des années où on le suit entre les branches, où tu perds 10, 15 millions par saison en étant propriétaire des Alouettes? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec, du Québec Inc., qui serait prêt à ça? Ben, ça, c'est. J'aimerais ça que ce soit moi, mais c'est pas moi qui peut donner la réponse.
Ouais, non, j'avoue, ça, c'est une très bonne question. De qu'est-ce qu'on a entendu lorsque Stern et Spiegel ont acheté les Alouettes? Ben, la Ligue s'est occupée d'éponger la dette. Ils n'avaient pas à s'occuper de la dette. Est-ce qu'on va faire la même chose avec de potentiels nouveaux propriétaires? Bon, tout ça, ça reste à voir, mais tu as mentionné l'équipe de soccer de Montréal. Écoute, la famille Saputo, c'est une famille montréalaise. On a investi, on a construit un nouveau stade. Non seulement ça, on a construit un centre d'entraînement également pour l'équipe de soccer. Alors que les Alouettes sont à Montréal depuis 1996, il n'y a toujours pas de centre d'entraînement pour l'équipe. Les bureaux, on utilise les bureaux désuets du stade olympique encore jusqu'à ce jour. Alors, c'est pour ça que je me dis que ça serait bien qu'il y ait des investisseurs d'ici et puis qui vont dépenser de l'argent justement afin d'amener l'organisation montréalaise en 2022, afin de moderniser certains aspects de l'organisation. Écoute, il y a un autre sujet qu'on doit aborder. C'est un sujet qui n'est pas vraiment facile. C'est qu'est-ce qui est arrivé, bon, avec le centre arrière des Alouettes, Christophe Normand, qui a été arrêté. Il fait face à des accusations de leurre envers une personne qui est âgée de moins de 18 ans. Écoute, c'est très délicat tout ça. J'ai aimé ce que Mario Cecchini et Danny Machocha avaient à dire hier, en particulier Cecchini, qui lui, immédiatement, ben, s'est mis à parler de la victime potentielle. Il a dit, écoute, c'est une jeune fille qui a démontré beaucoup de courage afin d'aller aux autorités, d'en parler à ses parents. Et lorsque j'écoutais Cecchini parler, ben, c'est comme si c'est pas mal un fin accompli, on dirait, là, de la façon dont il parlait de tout ça, comme quoi que Christophe Normand est probablement coupable. Écoute, on doit laisser la justice faire son œuvre, le processus. Mais qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Est-ce que ça t'est arrivé dans ta carrière d'avoir un coéquipier qui était dans le même genre de situation? Puis comment vous avez vécu ça dans le vestiaire? Parce que ça peut pas être facile, là.
Et récemment, père de famille, pour moi, c'est quelque chose d'assez épeurant d'entendre ça, que quelqu'un que je connais personnellement, que j'ai côtoyé tout au long de ma carrière de football, que ce soit contre ou même avec à l'Université Laval, ou puis encore contre dans les pros. Je pense à une situation qui n'est pas du tout la même chose, mais En 2018, si je ne me trompe pas, Ottawa, on avait un joueur, on avait Teague Sherman qui avait été accusé d'agression sexuelle. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec ce dossier-là, mais un peu sensiblement la même chose. Là. On s'est abstenu de commentaires, on laisse la justice faire, mais c'est déplorable les actions et chapeau et courage à la victime d'avoir d'avoir porté plainte ces comportements-là. Mais c'est déplorable. Si c'est vrai, c'est dégueulasse, mais on espère que la justice fera son travail.
Je crois que tout le monde a été ébranlé lorsqu'on a appris la nouvelle. Bien sûr, tout le monde au sein de l'organisation Montréalais, c'est ce que Mario Cecchini et Danny Machocha nous disaient, mais même les journalistes qui couvrent régulièrement les activités des Alouettes, parce que, bon, on côtoie les joueurs, on les interviewe, et tout ça, puis là, d'apprendre ça, vraiment, je pense que tout le monde était bouleversé, mais comme tu l'as dit, on va voir qu'est-ce qui va arriver du côté de la justice avec tout ça. On n'est pas des experts en la matière, donc on ne va pas se prononcer là-dessus. Alors, on verra la suite des choses, mais sur le terrain, l'aspect football, les Alouettes n'ont pas vraiment un autre centre arrière. Alexandre Gagné est un centre arrière, mais il joue principalement sur les unités spéciales et il fait de l'excellent boulot au niveau des unités spéciales. De ce que j'ai vu lors de la séance d'entraînement de lundi, ben, on a utilisé beaucoup de lignes à l'attaque à 6 joueurs afin de pallier à la perte de Christophe Normand. Pierre-Olivier Lostage était utilisé comme 6e joueur de ligne à l'attaque. Alors, ce sera quelque chose à surveiller vendredi soir lorsque les Alouettes vont affronter ton ancienne équipe, le Rouge et Noir, au stade Percival Molson. Puis un joueur qui sera pas là du côté des Alouettes, il s'agit de demi à l'attaque, Tavion Feaster. Feaster n'est pas revenu de la semaine de congé. Danny Machocha, lorsqu'il s'est adressé aux médias après la séance d'entraînement de lundi, il a dit, écoute, on ne sait même pas où il est. On ne sait pas s'il est à Montréal. On ne sait pas s'il est chez lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a raté son vol, le vol qu'il avait afin de revenir après la semaine de congé. Et pour avoir observé Fissou durant les séances d'entraînement avant la semaine de congé, justement, il semblait être complètement désintéressé durant les séances d'entraînement. Alors, on va voir, mais tout porte à croire qu'il a joué possiblement son dernier match en uniforme montréalais. C'est dommage parce que, Jean-Philippe, les Alouettes n'ont pas vraiment profondeur la position de demi à l'attaque présentement. Tout ce qu'on a, c'est Sean Antwi et Walter Fletcher présentement.
Non, mais en espérant que Standback revienne bientôt, en espérant, ce serait bien pour eux autres. Ça arrive souvent ça, que des joueurs retournent chez eux pendant la semaine de vacances, un bye week. Les gars, ils peuvent pas retraverser la frontière ou pour X raisons, des papiers ne sont plus nécessairement en règle. C'est des affaires qui sont assez courantes. Je pense que certains joueurs qui oublient qu'ils changent de pays à chaque fois. Fait que, il y a certains comportements qui doivent faire attention quand ils vont chez eux et vice-versa. Mais oui, c'était lui qui avait quand même bien joué. Là, je pense une soixantaine de verges quand il avait joué comme partant.
Oui, il paraissait bien. Oui,
ouais, c'est dommage pour eux autres, mais je suis pas inquiet pour les Alouettes là, avec l'équipe de scouts qu'ils ont avec Jean-Marc Edmé et puis Pierre-Yves Lavergne. Ils vont trouver un jeune porteur dynamique assez rapidement pour les aider. Mais pour venir à ton point, là, Christophe Normand, les Alouettes avaient tout de même 22 joueurs canadiens par match dernièrement sur un minimum de 21. Donc, ils surhabillaient un Canadien, si on peut, avec la perte de Christophe Normand, ne changera pas grand-chose à l'alignement qu'on connaît à chaque semaine. Autre qu'on va voir un joueur américain de plus habillé au prochain match.
Oui, la prochaine rencontre va avoir lieu vendredi soir au Stade Percival Molson. Alors que les Alouettes vont recevoir la visite du Rouge et Noir d'Ottawa, bien sûr, le match sera présenté sur les ondes de RDS, comme à l'habitude, avec l'émission d'avant-match. Ben écoute, on va se tourner maintenant du côté de la NFL. Comme je le disais tout à l'heure, les matchs préparatoires sont terminés. Là, il faut juste patienter au 8 septembre. Jeudi soir, le 8 septembre à Los Angeles pour le premier match de la saison entre les Rams et les Bills. Alors, il faut s'armer de patience, mais tout de même, il y a eu quelques nouvelles qui sont sorties au cours des derniers jours, notamment du côté des 49ers de San Francisco. Jean-Philippe, tout le monde là, on croyait que c'était terminé entre les Niners et Jimmy Garoppolo. Garoppolo qui, depuis le début du camp d'entraînement, en fait, il a participé à aucun entraînement avec son équipe. C'est une situation particulière. Lui, il venait sur le terrain, il lançait le ballon, il s'entraînait en solitaire, il lançait des passes à des membres de l'organisation des 49ers, mais qui n'étaient pas nécessairement des joueurs, donc il tentait de rester en forme. Lorsque l'équipe arrivait sur le terrain, lui, il quittait. Mais là, il a accepté une diminution de salaire. Donc, il va rester avec les 49ers de San Francisco. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jean-Philippe, pour le jeune Trey Lance, qui pourtant, au début du camp d'entraînement, Kyle Shanahan, en compagnie de John Lynch, entraîneur-chef et le DG, avait dit que Trey Lance était leur homme. Et puis là, Jimmy est encore là. Jimmy G est encore dans les parages. Qu'est-ce que ça veut dire? Il pourrait pas ébranler la confiance du jeune Trey Lance?
Ben, ébranlé, j'espère pas, parce que tu veux être un carrière d'une grosse franchise NFL, ça te prend un peu plus de caractère que ça. Faut que tu aimes la compétition. Je me mets à la place du directeur général puis de l'entraîneur-chef. Probablement qu'au cours du camp, ils se sont dit, écoute, on n'a aucun. Et ça nous prend quelqu'un d'expérience. Donc, c'était la décision qu'ils ont faite. Même à la place de Danny Machocha, il a fait la même décision. Ryan Adams, qui est un bon carrière, a décidé quand même de signer Trevor Harris comme vétéran. En train de sauver leur saison. C'est la même chose. C'est jamais ce qui peut arriver. Puis je pense que c'est une bonne décision pour les 49ers. Jimmy Garoppolo, qui est tout de même le backup le mieux payé de la NFL, si tout de même il reste backup. Mais je pense que ça va être une belle compétition en espérant que Trey Lance. Ça le pousse un peu plus.
Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout avec le style de jeu de Trey Lance, hein, parce qu'à ce stade-ci de sa carrière, il est un meilleur coureur que passeur. Tu le sais, si c'est une carrière qui court beaucoup, éventuellement, tu vas te blesser. Donc, on se doit d'avoir un bon carrière réserviste, mais en même temps, Trey Lance, ça n'a pas été concluant, ses performances lors des matchs préparatoires. Il avait démontré de belles choses lors du premier match préparatoire, mais après ça, ses performances ont laissé, en tout cas, pour moi, ça m'a laissé sur mon appétit. Et pour moi, c'est clair que Jimmy Garoppolo est toujours le meilleur carrière dans l'organisation des 49ers de San Francisco présentement. Oui, Trey Lance a un plus grand potentiel, mais j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, tout ça, parce que tu sais, tu as été un joueur. Tu peux pas tromper les joueurs. Les joueurs le savent, là, qui est le meilleur des deux. Puis à un certain moment donné, si Trey Lance ne performe pas, Kyle Shanahan n'aura pas le choix d'envoyer Jimmy Garoppolo dans la mêlée parce que les joueurs, tu ne peux pas mentir aux joueurs. C'est ce que j'essaie de dire. Tu dois faire jouer les meilleurs joueurs, non?
Ben oui, parce que sinon, il n'y a personne qui va te prendre au sérieux. C'est arrivé à quelques reprises au cours de ma carrière, tu sais, des fameux chouchous ou les bons gars, tu sais, c'est pas un bon joueur. Faut pas qu'il joue, faut que ce soit le meilleur joueur. Et si c'est Jimmy Garoppolo le meilleur joueur en espérant que c'est lui qui joue, mais il y a aussi du monde qui sont payés des gros salaires pour repêcher, évaluer dans cette équipe-là. Puis à un moment donné, il va falloir que leur plan arrive à terme avec Trey Lance. C'est un choix de première ronde, donc j'imagine qu'ils veulent le tester rapidement en début de saison.
En tout cas, ça va être à surveiller tout au long de la saison, ça. Les performances de Trey Lance et est-ce que Jimmy Garoppolo va obtenir du temps de jeu. Du côté de la section S de l'Association nationale, les Commanders de Washington, ils ont vraiment appris une très mauvaise nouvelle. Le demi à l'attaque recrue, Brian Robinson, qui connaissait un excellent camp d'entraînement, il semblait qu'il allait être le demi à l'attaque partant de Washington lors de la première semaine d'activité. Il a été atteint par balle à plusieurs reprises. On a tenté de lui voler sa voiture. Heureusement, il est dans un état stable à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie. Toutefois, on ne sait pas s'il sera en mesure de revenir au jeu au cours de la saison 2022. Écoute, Jean-Philippe, quelle a été la réaction lorsque tu as appris cette nouvelle? Parce que c'est vraiment triste, hein? Tu sais, un jeune homme comme ça, il arrive dans la NFL, connaît un très bon camp, puis là, du jour au lendemain, il aurait pu perdre la vie. Heureusement, ce n'est pas le cas. Mais tout de même, peut-être qu'il va devoir rater sa saison recrue au grand complet.
Oui, non, c'est dommage. Un joueur dynamique, c'est malheureux ce qui se passe. On en parle à Montréal. La lance armée est rendue vraiment à un autre niveau, en espérant qu'il puisse retourner jouer au football, puis certainement au niveau auquel il jouait. Puis les Commanders auraient certainement eu besoin de son aide cette saison, parce que l'année passée a été difficile. Mais en espérant qu'il y ait un prompt rétablissement, qu'il s'en remette à 100% et qu'il nous revienne le dimanche sur le terrain de football.
On reste côté de la section S de la Nationale. Les Cowboys de Dallas, ils n'ont pas été chanceux non plus. Ils ont perdu les services du bloqueur à gauche, Tyron Smith. Smith a été opéré aux ischios jambiers. Puis, je ne sais pas si tu as lu les détails de sa blessure, mais écoute, moi, je suis dans le monde du football depuis quoi? Depuis 30 ans maintenant, là, depuis que j'ai commencé à jouer jusqu'à ce jour. Jamais j'ai entendu parler de ce genre de blessure-là au niveau des ischios jambiers. Donc, son ischio jambier qui s'est complètement détaché derrière sa rotule, je comprends bien, du moins derrière le genou. En tout cas, bref, c'est pas sa première blessure. Écoute, j'avais ça dans mes notes. Tyron Smith n'a pas pris part à une saison complète depuis 2015. Écoute, ça fait 7 ans la dernière fois qu'il a joué tous les matchs d'une saison régulière. Il est très talentueux, mais là, sur le terrain, ça veut dire quoi ça pour les Cowboys? Parce que leur ligne à l'attaque, elle a perdu des morceaux durant la saison morte. Et puis, c'est pas la même ligne à l'attaque qui était dominante il y a quelques années à peine.
Non, ça veut dire encore plus de bois sur de poids sur le dos de Dak Prescott. Une chance que c'est un carrière mobile, parce que le joueur qui va le remplacer, bloqueur à gauche, va avoir toute qu'une job. Tyron Smith, qui est un joueur établi, dominant, malgré le fait qu'il ait été ralenti beaucoup par les blessures. C'est un joueur qui est encore extrêmement dominant et c'était le pilier de cette ligne à l'attaque-là, de l'expérience, joueur très athlétique, en espérant qu'il réussisse à trouver quelque chose pour les aider. Peut-être un joueur qui va se faire release aujourd'hui aux coupures.
Se faire libérer, oui.
Mais ouais, libérer, mais ce ne sera jamais niveau de Tyron Smith. Mais ils vont pouvoir s'en sauver, je crois, un peu avec Dak Prescott, un carrière. Plus que mobile, là. Très confortable avec ses jambes.
Oui, c'est vrai, c'est un bon point que tu amènes, puisque bon, on enregistre le podcast en fin d'avant-midi, mardi, et les équipes ont juste à la fin de la journée aujourd'hui, afin d'y aller de leur dernière coupure du camp d'entraînement. Donc, il devrait y avoir beaucoup de mouvements de personnel au cours des prochaines heures du côté de la NFL. Ce sera à surveiller, bien sûr. J'ai hâte de voir si qu'il va y avoir des surprises, c'est des joueurs que. Sont considérés comme des joueurs vedettes, peut-être qu'ils vont se faire libérer, question de salaire, tout ça. Bref, on va suivre ça, bien sûr, tout au long de la journée. Du côté des Seahawks de Seattle, il y avait une bataille au poste de carrière entre Drew Locke et Geno Smith. C'est finalement Geno Smith qui sera le carrière partant des Seahawks de Seattle lors de la première semaine d'activité. On sentait du côté de l'organisation qu'on aurait souhaité que ce soit Drew Locke qui mérite le poste partant. Mais Drew Locke, à son dernier départ, lors du dernier match préparatoire, une passe de toucher, 3 interceptions. Donc finalement, d'une certaine façon, il a pris la décision. C'est lui qui a perdu le poste de partant. Qu'est-ce que tu penses de ça, Geno Smith, comme carrière partant pour une équipe qui est en pleine reconstruction? Là?
Ouais, rendu là, mon opinion, ça a été de mettre Drew Locke. Là. Donne-y de l'expérience, puis regarde ce qu'il peut faire. Geno Smith, on l'a vu jouer, on l'a vu, puis ça n'a pas été... Ça n'a pas été facile. Il sort des boulamites, Geno Smith, qui est un routier de la NFL. Il a fait quelques équipes comme remplaçant. Je trouve ça spécial qu'on donne les clés de la franchise à Geno Smith, mais on n'a personne d'autre. Ça a l'air qu'il n'y a personne d'autre. Donc, on avait eu des flashs de Drew Locke avec les Broncos, mais on dirait que ce ne sera pas ça. En tout cas, pas pour la première semaine, en espérant qu'il puisse se rattraper dans les prochaines semaines.
Écoute, ça, c'est à quel point probablement que Geno Smith a mieux joué, puis c'est pas juste lors des matchs préparatoires, mais lors des entraînements également, que Drew Locke. Là, on est en reconstruction, il me semble qu'on devrait, comme tu dis, on devrait y aller avec le plus jeune carrière des deux. On préfère miser sur le vétéran. Moi, j'ai jamais été un fan de Drew Locke, même là, lorsqu'il avait été repêché par les Broncos, je me souviens de lui à l'Université du Missouri. Écoute, cette machine à revirement prenait de très mauvaises décisions, lançait des passes, tu te dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a vu, à quoi qu'il a pensé? C'est ce qu'on voit là, depuis qu'il est dans la NFL également. Ça se poursuit. C'était comme ça à Denver. C'est comme ça à Seattle. Drew Locke ne va pas changer. Et dernière nouvelle, il y a les Panthers à Caroline, eux. C'est pas vraiment une surprise. Ils ont annoncé que Baker Mayfield allait être leur carrière partant. Au début de la saison, il faut dire que Sam Darnold a subi une blessure également. Une blessure assez grave à une cheville, si je ne me trompe pas. Alors, Baker Mayfield, carrière partant, il a la chance de relancer sa carrière avec les Panthers à Caroline. JP, est-ce que tu penses qu'il va être capable de faire?
Mon opinion, c'est oui. Avec des joueurs comme Robbie Anderson en pleine forme. Mais c'est plus plate pour Sam Darnold qui, lui, C'était comme quand il est arrivé l'année passée, première game, je pense à 300 verges, j'étais en feu. On était convaincu que c'était la renaissance de Sam Darnold, en espérant que ce ne soit pas la même chose cette année pour Baker Mayfield qui commence, puis que la semaine 3, on soit complètement déçu. Mais dans cette histoire-là, l'équipe qui fait le plus pitié, c'est les Browns de Cleveland qui l'ont laissé aller. Je comprends
C'est
qu'ils
ton
voulaient plus
club.
être là.
C'est ton club en plus, les Browns.
Ben oui, les Browns, c'est mon club. J'ai ma photo avec Baker Mayfield au bord avec Ryan et Antoine Pruneau. Mais ce qui est dommage, c'est que là, on n'a pas de corps arrière avec une corps arrière qui est suspendu pour 11 matchs chez les Browns. Baker Mayfield, en tout cas, semble filer le parfait bonheur à Caroline. Il semble avoir eu un bon camp d'entraînement. De retour au show, un gars du Texas qui a joué à Texas Tech puis à Oklahoma. En espérant qu'il y ait une bonne saison, je lui souhaite. Les Panthers qui. Ça fait des années qu'ils n'ont pas de carrière en espérant que ce soit finalement ce qu'il a besoin.
Ouais, ben écoute, en tant que partisan des Browns, dis-moi, là, comment tu vis ça, là? Comment, qu'est-ce que tu penses justement de la décision des Browns d'avoir mis sous contrat de Sean Watson alors qu'ils savaient qu'ils faisaient face à des accusations, à quoi, une trentaine d'accusations au civil de comportement sexuel inapproprié. Malgré tout, on lui a donné un gros contrat. Là, on se retrouve avec presque pas de carrière avec Jacoby Brissett pour les 11 premiers matchs de la saison. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, en tant que partisan des Browns? Comment tu vis ça? Puis, est-ce que tu vas être capable d'encourager les Browns même lorsque Deshaun Watson va revenir au jeu?
Il y a probablement quelqu'un qui savait quelque chose plus que nous autres. J'ai de la misère à croire que ça soit dans ta chaise de directeur général. Tu es au courant de pas mal plus d'histoires que nous autres. Puis tu prends la décision de donner un contrat d'un quart de milliard, sachant tout ce qui se passe dans sa vie. Comme on dit en anglais, swing for the fence. C'était soit make it or break it. Fait que t'as l'impression que ça va être put, put, put. Qu'on commence à savoir le détail de cette affaire-là, puis que ça finira pas par grand-chose. Mais Jacoby Brissett, qui a déjà été un carrière plus que respectable, je pense, dans des bonnes années là, avec les Patriots puis les Colts, qui a été un cas débrouillé. Est-ce que le système offensif va lui permettre d'avoir un peu plus de succès que ces dernières années aux Colts? Je ne sais pas. Mais en tant que fan des Browns, on n'est pas porté pas poigné dans la cabane pour le début de saison.
Non, vraiment pas, parce que j'ai bien hâte de voir comment ce début de saison-là va se dérouler du côté des Browns de Cleveland et des Panthers à Caroline avec Baker Mayfield. Moi, je suis pas un fan de Baker Mayfield, mais bon, je lui souhaite d'être en mesure de relancer sa carrière. On verra s'il pourra le faire, parce que ça passe sa case là, pour les Panthers, notamment pour l'entraîneur-chef Matt Rhule également. Là, pour eux, beaucoup de succès. Il y avait des promesses qui ont été faites. On n'a pas livré la marchandise, alors. On se doit de connaître du succès du côté de la Caroline. On a une bonne défense, une question en attaque. Si on va pouvoir marquer des points, tout ça reste à voir. Ben, JP, écoute, je te remercie beaucoup de ton passage au podcast. Ça fait toujours un plaisir d'avoir la chance de te jaser. Et puis encore une fois, félicitations avec le nouveau bébé. Et j'espère que tu seras en mesure là, d'avoir des bonnes nuits de sommeil au cours des prochaines semaines.
Mais merci beaucoup à vous autres. Merci Didier de m'avoir invité. Salut.
Hey, salut, bonne fin de journée. Alors, si vous n'êtes pas au courant, ben, du côté du réseau des sports, au cours des prochaines, au début du mois de septembre, du 8 au 12 septembre, ben, ça va être la grande semaine football sur les ondes de RDS. Et lors de cette période-là, on va vous présenter pas moins de 10 matchs, oui, 10 matchs de la Ligue canadienne, de la NFL. Tout ça en 5 jours, ça sera à ne pas manquer. Je vais être sur place à Los Angeles pour le début de la saison régulière de la NFL, jeudi le 8 septembre, lorsque les Rams vont recevoir au SoFi Stadium les Bills de Buffalo. Comme je le disais tout à l'heure, possiblement peut-être une prélude au prochain Super Bowl. Alors tout ça ne sera pas, ça sera à ne pas manquer la grande semaine de football sur les ondes de RDS et le NFL Red Zone qui sera de retour lors du premier dimanche d'activité, dimanche le 11 septembre. Je ne serai pas là pour le premier dimanche, mais Jasmin. Il sera en compagnie de l'ancien receveur de passe de la NFL et de la Ligue canadienne, Samuel Giguère. Alors, la NFL Red Zone à tous les dimanches, si vous ne voulez rien manquer, aucun des touchés qui sont inscrits lors des matchs de la NFL, ben, c'est un rendez-vous via le site web de RDS sur le rds.ca. Alors, le début de la saison de la NFL, ça s'en vient en grands pas. On est prêt et afin de vous aider également, afin que vous soyez prêts pour votre repêchage de fantasy football, ben, on va accueillir Marc-André Chaloux, qui va venir nous parler de certaines équipes où il se passe des choses. Il y a eu de bonnes performances sur des matchs préparatoires, peut-être des performances plus décevantes. On va se tourner, Marc-André, du côté des Dolphins de Miami. Pour bien sûr commencer en parlant de Tua Tagovailoa. C'est une année là, cruciale pour Tua. Plus d'excuses. Il est en santé dès le début de la saison. On a fait l'acquisition de Tyreek Hill. Il est bien entouré en attaque. Maintenant, est-ce que Tua sera en mesure de livrer la marchandise, pas juste pour les Dolphins, mais également pour les propriétaires de Fantasy Football?
On était vraiment curieux à savoir comment que ça allait fonctionner l'attaque des Dolphins avec Tua et surtout avec Mike McDaniels, le nouvel entraîneur-chef. Et Tua vraiment est vraiment connu des matchs préparatoires assez éloquents. La semaine dernière, en fin de semaine, il a complété 6 de ses 7 passes pour des gains de 121 verges, une passe de toucher. Et on a vu d'ailleurs une superbe longue passe. Bon, Tyreek Hill a été élogieux envers la précision de Tua Tagovailoa. C'est une longue passe, peut-être pas trop. On est en termes de précision, on pourrait repasser, mais ça a été une longue passe captée par Tyreek Hill pour un jeu de plus de 50 verges, je pense. Mais mon point que j'ai apporté, c'est vraiment Tua Tagovailoa connaît vraiment des statistiques, des chiffres éloquents en match préparatoire, 12 en 15. Ça m'amène à vous parler de l'attaque de Mike McDaniel. Ce sont des matchs préparatoires, mais on a vraiment vu une évolution dans l'attaque, dans Tua aussi également. Il se sent de plus en plus confortable. Et ça m'amène à vous dire que Tua Tagovailoa, pour moi, ça demeure un quart arrière numéro 2 dans une équipe fantasy assez intéressant, avec un potentiel vraiment peut-être top 12 dans son cas, ou top 10 peut-être. Je m'avance pas pour vous dire que ce sera la réincarnation de Josh Allen, mais ça demeure intéressant avec les parcelles un peu de l'attaque de Mike McDaniels. Beaucoup de jeux au sol. Raheem Mostert a connu un bon match en fin de semaine. Chase Edmond va être utilisé à outrance. On voit un peu les similitudes avec l'attaque de Kyle Shanahan, parce qu'on sait que Mike McDaniels était un disciple, était avec les 49ers la saison dernière. Donc, Tua Tagovailoa, pour moi, ça m'a emballé. C'est encourageant de voir des signes d'amélioration. Et on sait que les Dolphins ont vraiment amélioré ses armes autour de lui, hein, Tyreek Hill, Jalen Waddle. Ça reste intéressant. Et je ne sais pas ce que tu en penses de Tua, toi, Didier, mais vraiment, moi, ça m'emballe de voir à quel point il peut peut-être réussir, au point de vue fantasy, vraiment connaître une bonne saison.
Je suis pessimiste. J'ai besoin de voir Tua être productif sur le terrain. Parce que, écoute, moi j'étais un grand fan de Tua lorsqu'il jouait à l'Université d'Alabama, ben, comme plusieurs personnes l'étaient, tu vas me dire. Mais je trouve que c'est décevant. Parce qu'une fois qu'il est arrivé sur les terrains de la NFL, on s'est rendu compte à quel point son talent est quand même limité. T'sais, pas un bras super puissant, pas très rapide, pas très mobile également. Donc, je ne sais pas s'il a les atouts physiques, justement, afin de devenir une carrière de concession et aussi de devenir une carrière sur laquelle on va pouvoir se fier au niveau du fantasy football semaine après semaine. Bref, parce que les Dolphins sont très intrigants. J'ai bien hâte de les voir en action une fois que la saison régulière va commencer.
Une petite statistique vraiment intéressante, ben, un peu inutile chez les Dolphins, ça a été l'équipe en match préparatoire qui a marqué le plus de points dans la NFL. Et on parlait de l'attaque de Mike McDaniel tantôt, qui arrive, mettons, des 49ers, mais ça joue aussi sur le temps de jeu ou l'efficacité fantasy de Mike Gesicki, qui lui se retrouve vraiment un peu à la dérive parce que on a vu d'ailleurs l'an dernier chez les 49ers, George Kittle était davantage appelé à bloquer plutôt qu'à être utilisé comme receveur de passe. Et c'est la même chose qui arrive avec Mike Gesicki. Mike Gesicki a dit lui-même dernièrement qu'il est en train d'apprendre une toute nouvelle position en ce moment. Et pour vous donner une idée, l'an dernier, il a été utilisé comme à la position, ou aligné, disons, à la position de receveur 85% du temps. Et depuis le début des matchs préparatoires, seulement 14%. Donc, Mike Gesicki, ce n'était pas un ailier rapproché sur qui on pouvait compter. Ce n'était pas une valeur sûre au niveau fantasy. Mais présentement, je veux dire, si vous décidez de passer sur les ailiers rapprochés vraiment dominants, Mike Gesicki, certains pouvaient peut-être penser que ça pourrait être une belle option de fin de ronde, mais je préfère un volume sûr en Cole Kmet. Je préfère même attendre et essayer de lancer ma fléchette sur peut-être Austin Hooper plutôt que le Mike Gesicki en ce moment.
Oui, parce que Gesicki, il n'est tout simplement pas un fit, si tu me permets l'expression, pour le système de Mike McDaniels. Parce que d'abord et avant tout, on devrait miser sur le jeu au sol. C'est ce que les 49ers faisaient. Et Gesicki, il n'est pas un bloqueur. Comme tu l'as mentionné, on l'envoie à la position d'ailier rapproché maintenant avec Mike McDaniels comme entraîneur-chef. Essentiellement, même s'il est un ailier rapproché, on l'utilisait comme un receveur de passe du côté des Dolphins depuis son arrivée dans la NFL. Il est très athlétique, c'est un excellent receveur, mais il n'est pas un bon bloqueur. Il n'a pas vraiment d'intérêt à pour bloquer. C'était la même chose lorsqu'il jouait à Penn State également. On l'utilisait comme receveur de passe. Alors, moi, je crois que c'est un joueur qui sera peut-être candidat à être échangé parce qu'il y a un rôle pour lui, mais ce rôle-là ne se retrouve pas au sein de l'attaque des Dolphins de Miami en raison du changement de philosophie en attaque. Et puis, il n'est pas un bon bloqueur. Donc, si on s'entête à le faire jouer, il va en rater des blocs. Il va en rater des blocs. Puis ça peut devenir dangereux pour le carrière. Également au niveau du jeu au sol, le jeu au sol sera moins productif. Donc, j'ai bien de voir ce que les Dolphins vont faire avec Mike Gesicki. Puis pour ce qui est du fantasy football, comme tu l'as dit, ça serait mieux de regarder les autres options à la position d'ailier rapproché plutôt que Gesicki, bien qu'il est très talentueux. Maintenant, du côté des Buccaneers de Tampa Bay, finalement, on a vu Tom Brady en uniforme. Il a bien paru lors de son premier match préparatoire.
Ça a été quand même rassurant du côté des Buccaneers parce que, bon, on sait, la ligne à l'attaque est complètement décimée. Je ne sais pas c'est qui les joueurs de ligne qui vont amorcer le premier match du côté des Buccaneers, donc c'est assez. Mais Tom Brady avait l'air de Tom Brady hein, dans le premier match. Il a vraiment été chirurgical dans ses passes. Il a tenu vraiment à rassurer tout le monde et par la bande également. Moi, j'étais un ardent défenseur où j'aimais beaucoup Leonard Fournette en début de camp. Et là, avec la ligne à l'attaque un peu chancelante, je me suis dit peut-être que ça va jouer sur l'efficacité de Leonard Fournette. Et ça a été intéressant de voir que Leonard Fournette a joué les 11 jeux avec Tom Brady. On pensait peut-être du côté des Buccaneers, on disait que la recrue Rashad White pourrait voir du temps de jeu en situation de passe en troisième essai. Mais vraiment, pas en ce moment. C'est vraiment Leonard Fournette qui est vraiment utilisé à outrance dans l'attaque des Buccaneers. Et ça m'amène aussi à vous parler des receveurs. Hein? Tom Brady, on le sait, si la ligne à l'attaque tient, Tom Brady a du temps pour retrouver ses receveurs. Ça m'amène à vous parler de Julio Jones, qui a eu une chimie qui a connecté avec Tom Brady sur une passe de 20 verges lors du troisième match préparatoire. Tom Brady a dit que c'est facile, que Julio Jones est un receveur élite, et que c'est facile de créer une chimie avec ce genre de receveur-là. Il ne faut pas oublier que Russell Gage est blessé en ce moment présentement chez les Buccaneers. On ne sait pas si Chris Godwin, tout porte à croire qu'il n'amorcera pas le premier match de la saison. Mike Evans soigne une blessure aux ischio-jambiers. Et on vient de libérer Tyler Johnson ce matin. On enregistre le podcast mardi. Donc, Julio Jones, personnellement, je pense qu'il est probablement fini. Il avait l'air d'un gars au bout du rouleau au Tennessee, mais un billet de loterie, un lancer de fléchette en fin de ronde et pour un joueur que si ça ne fonctionne pas, vous pouvez libérer rapidement. C'est peut-être une bonne idée de tâter le terrain ou de s'essayer avec Julio Jones en fin de ronde en ce moment.
Ouais, écoute, si les Buccaneers sont le moindrement intelligents, ils vont limiter le nombre de jeux de Julio Jones afin de s'assurer qu'il reste en santé le plus longtemps possible parce qu'on ne peut pas l'utiliser maintenant régulièrement comme à l'époque avec les Falcons. Son corps n'est pas en mesure de tenir le coup. Il a subi plusieurs blessures là, aux jambes lors des dernières années, blessures aux pieds, aux ischio-jambiers continuellement. Alors, est-ce que ces ischio vont tenir le coup? Moi, si j'étais les Buccaneers, je compterais à chaque semaine le nombre de jeux de Julio Jones afin d'être en mesure de le garder en santé le plus longtemps possible. Pour le fantasy football, je préférerais repêcher d'autres receveurs de passe. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un joueur qui est blessé, puis là, il est dans ta formation, puis là, écoute, là c'est comme, bon, qu'est-ce que je fais? T'es obligé d'aller voir toutes les semaines pour voir son état de santé, est-ce qu'il s'est entraîné, est-ce qu'il va jouer? Non, pas pour moi. Je préfère prendre ma chance avec un jeune receveur qui a des jambes fraîches plutôt qu'avec Julio Jones.
I feel your pain, mais s'il y a un corps qui peut revitaliser Julio Jones, c'est quand même bien Tom Brady, par exemple, je pense.
Oui, j'en doute pas. Si la ligne d'attaque tient en place, là, parce que là, la ligne d'attaque est faite avec du scotch tape, là, ou à peu près, là. On s'est rapiécé avec des morceaux de scotch tape. J'ai bien hâte de voir ça, là. Surtout que Brady n'est pas très, très mobile.
C'est un jeu de. Tu sais, les trucs, là. Les bouts de bois, là, que tu.
C'est quoi, là? Que tu tapais l'un par-dessus l'autre, là?
Oui, exact.
C'est quoi, c'est Jenga, c'est ça?
Jenga, c'est ça. Exactement.
Ouais. Donc, par combien de temps la ligne d'attaque des Buccaneers va tenir le coup? Ça reste à voir. Maintenant, du côté des Bears de Chicago, la situation à la position de porteur de ballon n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on pensait au début du camp d'entraînement. Finalement, c'est un peu un retour à la normale. Il semble que c'est David Montgomery qui sera l'homme de confiance.
Il y avait des échos en provenance de Chicago au début du camp comme quoi que Khalil Herbert allait être utilisé davantage cette saison, qu'il allait avoir un rôle plus important dans l'attaque au sol des Bears. Et ce qu'on a vu dimanche, ben David Montgomery a disputé son premier match préparatoire dimanche la semaine dernière et on a vu qu'il était présent avec Justin Fields dans 20 des 22 jeux de l'équipe. Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est que David Montgomery est la vache à lait probablement des Bears. Est-ce qu'on voulait simplement lui donner beaucoup de temps de jeu parce que justement il avait manqué les deux premiers matchs les deux premiers matchs préparatoires? Ça reste à voir, mais 20 contre 2 jeux pour Khalil Herbert, donc ça donne une bonne idée un peu de l'échiquier dans le champ arrière des Bears. Ce qui m'amène est vraiment donc on peut s'attendre à ce que Montgomery obtienne du volume. Il est présentement le porteur de ballon numéro 22. David Montgomery, il est derrière Josh Jacobs, que moi, je n'aime pas beaucoup Josh Jacobs cette saison, pour être ben honnête avec toi, Didier. Donc, je préfère David Montgomery. Je trouve que c'est un porteur de ballon quand même à rabais présentement. Et également, si on veut parler du côté des Bears, il faut parler de la performance vraiment étincelante en fin de semaine de Justin Fields, qui a joué pendant trois séquences à l'attaque et il a obtenu trois passes de toucher. Je sais, il y avait plusieurs partants du côté de l'excellente défense des Browns qui ne jouaient pas, mais il a quand même démontré des signes encourageants. Et je lisais sur l'attaque de Luke Getsy, qui est le nouveau coordinateur offensif de l'équipe. Il dit vraiment, Luke Getsy, il y a une attaque vraiment plus créative que celle de Matt Nagy. On utilise davantage les dérobades du corps, davantage de play action. Bref, on met vraiment les qualités ou les atouts de Justin Fields à l'avant-plan ou à bon escient. Et ce n'était qu'un match préparatoire. Je pense encore que la ligne à l'attaque des Bears est outrageusement suspecte, mais c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Et peut-être que le match de samedi dernier, ça vient peut-être d'allumer une switch du côté de l'attaque des Bears. Mon point, c'est ne repêchez pas Justin Fields en pensant que vous avez un quart top 5, mais en fin de ronde, il ne coûte rien présentement. Mettez-les donc sur votre banc, juste pour voir, comme on dit en bon québécois.
Ouais, juste pour voir, juste au cas où, juste au cas où, mais comme c'est si bien mentionné, mon Dieu, la ligne à l'attaque des Bears, c'est fort probablement une des pires de la NFL cette année. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et avant de se quitter, ben, il y a quelques joueurs qui ont retenu ton attention, notamment la carrière des 49ers de San Francisco, Trey Lance. J'en ai parlé un peu avec Jean-Philippe Bolduc. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette situation avec le retour de Jimmy G?
Je t'ai entendu tout à l'heure dire que tu étais Team Garoppolo. Ben moi, je suis Team Trey Lance au niveau fantasy, en tout cas. Je voulais juste parler de la restructuration du contrat de Jimmy Garoppolo qui pourrait effrayer quelques propriétaires de Trey Lance ou, disons, jeter une douche d'eau froide sur ceux qui pensaient repêcher Trey Lance dans leur pool fantasy. Je pense que le contrat de Jimmy Garoppolo, ça sert simplement à dire qu'il sera maintenant plus facile à échanger. Je pense que Trey Lance est une valeur est sauf ou est safe pour le début de la saison. Mais déjà, Trey Lance, je veux dire, il y a une part de doute qui venait avec la sélection de Trey Lance dans vos repêchages. Je vous avais déjà conseillé d'ajouter peut-être un autre corps plus sûr, un Kirk Cousins que vous pouvez avoir plus loin en repêchage, un Matt Ryan, des corps vraiment sûrs qui pourraient vous donner un plancher intéressant semaine après semaine. Donc, pour moi, Trey Lance, ça demeure le quart numéro un au niveau, et évidemment, tu sais, c'est pas le même genre de joueur dans la vraie vie qu'au niveau fantasy. On sait très bien que Trey Lance, Garoppolo au niveau fantasy, c'est même pas comparable. Trey Lance pourrait atteindre des nouveaux sommets de points fantasy inespérés. Et je voulais vous parler de Dameon Pierce, qu'on a parlé depuis 3 semaines. 6 courses,
Bah,
37
toutes les
verges,
semaines,
un
faut en parler.
touché. Ben ouais, écoute, là, on achetait Trey Lance dans nos pools fantasy à l'aubainerie, mais là, on va devoir l'acheter chez Simon, je pense, parce qu'il est devenu de terminer les aubaines, terminer le rabais pour Dameon Pierce. Donc, ce sera intéressant de voir. J'ai vu, il est passé de la 9e ronde dans les repêchages fantasy à la 4e, 5e ronde. Donc, ce n'est plus une aubaine, mais je l'adore, ce joueur-là, Didier. Je pense que s'il pourrait connaître une bonne saison, je pense que 1000 verges, c'est atteignable dans son cas. Donc, j'ai bien hâte de voir.
Ouais,
Et je vais terminer. Oui.
la seule chose que je me demande, c'est est-ce qu'il sera en mesure de rester en santé? Parce que Il n'était pas très utilisé avec les Gators de l'Université Florida. Alors là, si on lui demande de courir 20 fois toutes les semaines avec le ballon, est-ce qu'il va tenir le coup? C'est la seule question que j'ai parce que vraiment, il semble très talentueux, Damien Pierce. Et puis, je crois la première fois qu'on en avait parlé lors du podcast, on parlait de lui comme un sleeper, mais là, ce temps-là est révolu, là.
Évolue.
Tout le monde est au courant que Damien Pierce pourrait être le demi à l'attaque recrue qui va atteindre la marque des 1000 verges cette année. Généralement, il y en a toujours un porteur de ballon recrue qui s'avère être une vedette au niveau du fantasy football. Est-ce que ce sera de Pierce cette année? Il semble que oui, du moins. On est encore au mois d'août. On va voir ce que ça va donner, mais écoute, il est l'homme de confiance dans le champ arrière des Texans.
Et peut-être un petit mot en terminant sur Jameis Winston que vous avez vu dans le tableau pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en vidéo. 4 en 4 à son premier match, 59 verges. Il revenait d'une blessure, d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Je pense que l'attaque des Saints est vraiment sous-estimée en ce moment. On a Chris Olave qu'on a repêché. On a ajouté Jarvis Landry. Michael Thomas, bon, c'est incertain, mais s'il est en santé, ça demeure vraiment une attaque aérienne explosive. Et Alvin Kamara, si vous parlez de rabais, ça c'est un rabais parce qu'on pensait peut-être qu'il allait être suspendu. Il était repêché en fin de première, début de deuxième ronde. Mais de ce que j'ai vu du match en fin de semaine pour Alvin Kamara, il est vraiment explosif. Il est vraiment un top. Il est vraiment le Alvin Kamara, le bon vieux vintage Alvin Kamara. Il avait l'air explosif. C'est un top 5 fantasy. Je pense que à la position 5, 6, 7 de votre repêchage, c'est un choix judicieux, Alvin Kamara. Et l'attaque des Saints, j'ai bien hâte de voir cette saison. Et Jameis Winston, c'est un autre corps. Je parlais de Kirk Cousins, je parlais de Matt Ryan. Jameis Winston, c'est un autre corps qui est en ce moment probablement gratuit dans vos pools fantasy. C'est peut-être à 12 équipes. C'est une excellente option en fin de ronde également.
Ouais, les Saints sont très intrigants, hein? Bon, changement, on sait que Sean Payton n'est plus là. Est-ce que l'attaque va être aussi bonne qu'elle l'a déjà été, bon, à l'époque de Drew Brees? Parce que, bon, l'année dernière, bon, Jameis Winston s'est blessé. Ben, Sean Payton, écoute, c'est un génie offensif. Hein? Là, il n'est plus là pour sélectionner les jeux. La défense devrait être bonne. Au cours des dernières années, elle a été une des meilleures de la NFL. Le talent est là, là, lorsque tu regardes la formation. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner du côté de la Nouvelle-Orléans. Et est-ce que Jameis Winston sera un bon carrière fantasy? Parce que, à Tampa Bay, il avait une valeur au niveau du fantasy football. Oui, il avait été victime de 30 interceptions, mais il avait également complété une trentaine de passes de toucher. Il avait amassé plus de 5 000 verges par la passe. Donc, au niveau du fantasy football, Jameis Winston, s'il n'est pas votre carrière numéro 1, devrait au moins être carrière numéro 2. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça, d'observer les Saints quand sa saison va commencer.
J'ai personnellement vécu le manège Jameis Winston à Tampa Bay, lorsqu'il était à Tampa Bay. Et il y avait des hauts et des bas, mais j'ai eu plus souvent de hauts que de bas, selon moi. Et j'aime Jameis Winston. Je pense que c'est un bon corps fantasy.
En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi aussi, j'ai toujours un faible pour Jameis Winston. En tout cas, on verra bien, alors que je rafraîchis ma page afin de voir s'il y a une transaction du côté de la NFL. Hein. Les Chiefs de
Les
Kansas
Eagles.
City qui ont libéré le receveur de passe Josh Gordon, mais bon, rendu à ce stade-ci, pas vraiment une grosse nouvelle rendu à ce stade-ci de la carrière de Josh Gordon. Et ton club, les Eagles de Philadelphie, ils ont complété une transaction avec les Saints à Nouvelle-Orléans, justement. Ils ont acquis le demi-défensif Chauncey Gardner-Johnson. Et Gardner-Johnson, qui est un excellent joueur de football. Alors, les Eagles, pour moi, en tout cas, sont les favoris afin de terminer au premier rang de la section S de la Nationale, surtout avec la blessure à Tyron Smith, dont on a parlé un peu plus tôt au cours du podcast. Es-tu optimiste à l'approche du début de la saison de ton club, les Eagles de Philadelphie?
Je suis très optimiste à l'approche de la début de saison de mes Eagles. Didier, écoute, les Commanders, ça sera pas cette année. Les Giants, c'est un peu, c'est un peu tout croche encore. Donc, vraiment, la NFC East, l'Est de la Nationale, est à la portée des Eagles cette saison. Et le reste, une fois que tu gagnes ta division, une fois que tu es en série, tu sais jamais. En
tout peut
éliminatoire.
Arriver. Ouais, tout peut arriver ou presque. Bon, ben Marc-André, je te remets ça encore une fois de tes conseils Fantasy Football pour les gens qui nous ont regardés ou qui ont téléchargé le podcast. Bon, on l'apprécie grandement et on se reparle la semaine prochaine.